Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Soyez les bienvenus dans l'édition de la nuit. Je suis très heureux de vous retrouver. Voici les titres de votre journal. Un 1er mai marqué par une forte mobilisation partout en France, 121 000 personnes sont descendues dans la rue, dont 18 000 dans la capitale. Des tensions ont émaillé plusieurs cortèges, les forces de l'ordre ont procédé à plusieurs dizaines d'interpellations. Nous ferons un point complet sur cette journée du 1er mai dans un instant. Jordan Bardella et Marine Le Pen en meeting à Perpignan ce mercredi, tête de liste RN pour les élections européennes. Jordan Bardella a donc choisi le 1er mai pour lancer le compte à rebours. Le Rassemblement national est largement en tête dans les derniers sondages à plus d'un mois maintenant du scrutin. Nous avons suivi ce meeting, vous le verrez. 4 jours après le meurtre de son fils, le père de Mathis sort du silence. Cet adolescent de 15 ans a été tué samedi dernier à Châteauroux par plusieurs coups de couteau. Son père ne souhaite aucune récupération politique ni aucune violence lors de la marche blanche organisée samedi. Et enfin, en demi-finale aller de la Ligue des Champions, les Parisiens se sont inclinés 1-0 sur la pelouse du Borussia Dortmund. Le PSG devra impérativement s'imposer avec 2 buts d'écart pour aller en finale. Les images, les buts et les réactions, ça sera dans votre journal des sports. . 121 000 personnes ont donc manifesté ce mercredi 1er mai partout en France, dont 18 000 dans la capitale, selon le ministère de l'Intérieur. Des tensions ont donc émaillé plusieurs cortèges, c'est le cas bien sûr dans la capitale ou encore dans la ville de Nantes. Des rassemblements sur fond de revendications portées par les syndicats pour les salaires et pour la paix. Dans la capitale, près de 50 personnes ont été interpellées et une dizaine de policiers a d'ailleurs été blessés. On fait un point complet avec Mathilde Ibanez et toutes nos équipes sur le terrain.
Le cortège parisien s'était lancé à 14h, place de la République. Dans le calme, mais rapidement, un pré-cortège s'est formé d'environ 4500 personnes, avec plusieurs centaines de radicaux, d'après les forces de l'ordre. Des tensions ont éclaté en tête du cortège parisien. Une quarantaine de personnes ont été interpellées et 917 contrôlées. 7 membres des forces de l'ordre ont été la cible d'une bombe agricole. Ils ont été transportés à l'hôpital en urgence relative. Plusieurs autres policiers et gendarmes ont également été blessés. Des vitrines, un abribus ont été vandalisés. Un véhicule a été incendié. Arrivée sur les lieux, la propriétaire du camion ne peut que constater les dégâts.
On a voulu essayer d'éteindre avec des seaux d'eau, mais les CRS nous ont dit non, on n'y allait pas. Et après, on a vu le camion cramer, quoi. Je devais travailler demain avec, livrer des clients. Je vais retarder la livraison.
La police a dû faire usage de gaz lacrymogène. Quelques tensions pour cette journée internationale des travailleurs qui a réuni 18 000 manifestants à Paris selon la préfecture de police.
Le préfet de police de Paris s'est exprimé sur la sécurité mise en place lors de cette manifestation du 1er mai. Laurent Nouniès a rappelé l'importance d'une forte présence policière pour que ces grands rassemblements puissent se tenir. Écoutez.
On a fait beaucoup de contrôles en amont, donc des contrôles préventifs, donc sur réquisition évidemment de Madame la procureure de la République, donc une quinzaine, et puis ensuite des interpellations pendant la manifestation pour des fauteurs de troubles. Mais je tiens vraiment à insister sur une chose, les fauteurs de troubles ne sont pas dans les cortèges syndicaux, ça s'est très bien passé, mais ils sont essentiellement positionnés dans le pré-cortège. Sans la présence des policiers et des gendarmes, sans la présence de la préfecture de police, ces manifestations syndicales ne pourraient sans doute pas se dérouler, car on a tout de suite des black blocs qui se constituent dans ces pré-cortèges et qui visent uniquement à provoquer les forces de l'ordre, à aller à la confrontation avec eux et à commettre des dégradations.
Et toujours en marge de ces manifestations du 1er mai, Raphaël Glucksmann, tête de liste PS aux élections européennes, a été violemment prise à partie et arrosée de peinture, c'était à Saint-Étienne. Lui et son entourage ont été agressés par une cinquantaine d'individus dès leur arrivée pour rejoindre le cortège. Raphaël Glucksmann accuse des militants insoumis d'être à l'origine de ces violences. Solène Boulan le récit.
Dans les rues de Saint-Étienne, Raphaël Glucksmann se fait bousculer.
La tête de liste PS Place Publique aux élections européennes est prise à partie alors qu'il doit rejoindre le cortège de la manifestation du 1er mai. Arrosé de peinture, il est exfiltré par les services de sécurité et poursuivi par des manifestants nerveux. S'en suivent des échanges tendus.
En Géorgie, je résistais à Poutine, monsieur.
Interrogé sur l'origine des manifestants qui l'ont pris à partie, Raphaël Glucksmann reste prudent.
Franchement, je ne les connais pas personnellement, donc c'est compliqué. On va voir qui c'est. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y avait des drapeaux de partis politiques. Il y avait des drapeaux de Révolution permanente et de la France insoumise. Donc voilà, ces gens sont des gens qui ne sont pas des démocrates. C'est tout, c'est pas des démocrates. On le voit dans le comportement interne de leur parti, dans leur structuration, dans leur discours, dans leur violence. Et nous, on rompt avec ça.
Une agression condamnée par l'ensemble de la classe politique, de la majorité jusqu'aux Républicains et son chef de file François-Xavier Bellamy.
L'extrême gauche n'a rien appris de son histoire. Il ne lui manque que le pouvoir pour retrouver la folie totalitaire. Chaque jour montre combien la NUPES aura été une faute pour ceux qui se sont rangés derrière elle. Aucun désaccord ne justifie la violence.
De son côté, le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, réfute toute accusation.
Je note qu'il aurait dû réfléchir avant de parler et d'accuser la France insoumise, qui est le confort que ces gens se donnent à toutes circonstances.
Selon une dernière étude, la liste Glucksmann réunirait 14% des intentions de vote, contre 17% pour celle de la majorité présidentielle.
Autre grand titre de l'actualité, Jordan Bardella et Marine Le Pen en meeting à Perpignan ce mercredi. Tête de liste RN pour les élections européennes, Jordan Bardella a donc choisi le 1er mai pour lancer le compte à rebours. Le Rassemblement national est largement en tête dans les derniers sondages à un peu plus d'un mois maintenant de ce scrutin. Marine Le Pen a appelé les Français à infliger la plus cinglante sanction électorale possible à Emmanuel Macron. Le 9 juin prochain donc, Yoann Uzaï et Sacha Robin ont assisté à ce meeting pour CNews.
Après un long plaidoyer contre l'Union européenne et après avoir redit sa volonté de mettre en place l'Europe des nations, Marine Le Pen a appelé à congédier le pouvoir en place en infligeant à Emmanuel Macron la plus cinglante sanction électorale possible le 9 juin prochain. Elle accuse le président de la République de vouloir déconstruire la France en ne faisant plus de notre pays qu'une province au sein de l'Union européenne qui serait dirigée d'une main de fer par Bruxelles. La stratégie du Rassemblement national dans cette campagne est toujours la même. Il s'agit de faire de cette élection européenne un référendum pour ou contre le président de la République. Une stratégie qui fonctionne puisque rien ne semble pouvoir arrêter dans les sondages Jordan Bardella qui devance d'une quinzaine de points Valérie Ayer, la candidate macroniste. Très haut dans les sondages, donc, Jordan Bardella craint une démobilisation de son camp. Il l'a répété à de nombreuses reprises, rien n'est joué. Il appelle les électeurs à se mobiliser jusqu'au bout et il appelle l'ensemble des patriotes à éviter la dispersion des voix. Message très clair envoyé aux Républicains et aux électeurs de Reconquête. Pour Jordan Bardella, le 9 juin prochain sera un vote de civilisation. Il s'agira pour lui de dire ce que nous sommes et ce que nous serons dans les prochaines années. Dans sa ligne de mire, l'immigration et l'islamisme contre lesquels il s'est à nouveau engagé à lutter.
Dans le reste de l'actualité, le temps est très agité sur une bonne partie nord du territoire. Météo France a donc placé 16 départements en vigilance orange pour orages et pluies inondations. Dans les départements concernés par cette vigilance, les orages s'annoncent virulents avec de fortes intensités de précipitations. De la grêle ou encore des bourrasques, l'activité électrique sera également marquée. Des grêlons gros comme des balles de golf ont d'ailleurs touché la Côte d'Or. Et sachez qu'à Paris, certains avions ont dû être déroutés. 4 jours après le meurtre de son fils, le père de Mathis est sorti du silence. Cet adolescent de 15 ans a été tué samedi dernier à Châteauroux par plusieurs coups de couteau. Son père ne souhaite aucune récupération politique ni aucune violence lors de la marche blanche organisée samedi. Un témoignage émouvant et d'une grande résilience que vous allez écouter tout de suite.
Je veux pas que ça monte au créneau parce que l'agresseur... C'était un Afghan, quoi, comme on l'entend depuis 2 jours. C'est surtout. Alors, oui, je veux que la justice soit faite, parce que c'est surtout pour moi le meurtrier de mon fils. Il me paraît logique qu'il y ait justice. Et pour lui et pour sa mère. Il va y avoir une marche blanche samedi, normalement, dont on ne connaît pas encore les détails. Je veux pas que ça se transforme en cassage de vitrine ni quoi que ce soit. Tout le monde et surtout n'importe qui nous a proposé d'organiser n'importe quoi. Donc c'est nous qui allons le faire, ça sera encadré par la police.
Éric Dupond-Moretti a publié une circulaire sur les mesures d'intérêt éducatif. Elle concrétise les annonces faites par le Premier ministre il y a quelques semaines maintenant. Gabriel Attal avait affirmé « tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies ». Des annonces qui visent les mineurs âgés de 13 à 16 ans. Chloé Tarquel-Récy.
Ils sont l'équivalent des travaux d'intérêt général pour les mineurs de 13 à 16 ans. Les mesures d'intérêt éducatif qui s'adressent aux primo-délinquants sont entrées en vigueur hier. Leur objectif, enrayer la dynamique de la délinquance.
J'ai un mantra et une philosophie que chacun connaît. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. Et ce matin même, la circulaire pénale qui prévoit l'instauration de ces mesures d'intérêt éducatif a été publiée par le garde des Sceaux, ce qui veut dire qu'on va pouvoir maintenant, entre 13 et 16 ans, prendre des sanctions de réparation pour des jeunes délinquants.
Ces mesures prendront la forme d'un stage en trois parties. La réparation, une activité en lien avec l'infraction commise pour faire réfléchir l'adolescent. Le vivre ensemble, visant à apprendre les droits et devoirs du citoyen, ainsi que les valeurs de la République. Et enfin, le soutien pédagogique et éducatif. Des sanctions critiquées par certains pour leur manque de fermeté.
Ce que les Français attendent aujourd'hui, ce sont des mesures plus fermes. Rétablir la possibilité d'une détention provisoire pour les moins de 16 ans, abaisser la majorité pénale à 15 ans, par exemple, créer des centres éducatifs fermés, prévoir des comparutions immédiates, c'est tout cela qui ne peut dissuader ces délinquants de plus en plus endurcis.
Une des visées de ces nouvelles mesures, agir vite. La première partie des travaux devra être exécutée sous 3 mois et l'entièreté du stage terminée sur une période de 6 mois.
Le rapport sur l'agression de Samara ne révèle ni harcèlement ni manquement fautif de la part de l'établissement scolaire. Ce sont les conclusions de l'enquête de l'inspection générale qui ont été rendues ce mardi. Cette adolescente de 13 ans avait été violemment agressée devant son collège de Montpellier, c'était le 2 avril dernier. Et selon la mère de la victime, ce rapport est une double peine pour sa fille. Explication Marie-Victoire Dieudonné, Chloé Tarka et Juliette Sadat.
Lettre croissant. Mais pas de possibilité d'établir l'existence de harcèlement scolaire. Ce sont les conclusions de l'enquête administrative de l'agression de Samara, rouée de coups le 2 avril dernier. Sa mère, qui avait demandé à ce que sa fille ne sorte pas de l'établissement, se sent trahie.
Par manque de preuves au niveau du relevé téléphonique, on en conclut que j'ai menti, que ma fille n'a jamais été harcelée. On explique que le professeur ne m'a jamais prévenu que Samara allait se faire frapper. Il m'a dit les mots mot pour mot, je crains pour votre fille, venez la récupérer. Ces jeunes ne sont pas là pour parler avec elle, ils sont venus pour la frapper.
Interrogé, le professeur principal nie l'avoir informé d'un danger imminent. Selon la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, la vie scolaire a suivi de manière resserrée l'adolescente de 13 ans et constaté la dégradation de ses relations avec les élèves comme avec les adultes.
Au vu des éléments portés à sa connaissance, ce collège a fait tout ce qui était en sa possibilité. Il y a eu un suivi de l'élève. Elle a été entendue plusieurs fois par les équipes éducatives avant le drame.
Une enquête judiciaire est également en cours pour laquelle 5 mineurs ont été mis en examen pour tentative d'homicide. Contrairement à l'enquête administrative, celle-ci pourrait donner l'accès aux conversations téléphoniques du jour du drame.
Les États-Unis appellent le Hamas à accepter la nouvelle proposition de trêve. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'est rendu pour la 7e fois déjà au Proche-Orient. Depuis le début de la guerre, donc, Washington a par ailleurs réaffirmé son opposition à une offensive sur Rafah. Je vous propose d'écouter à ce sujet Anthony Blinken.
En ce qui concerne Rafah, notre position est claire. Elle n'a pas changé et elle ne changera pas. Nous ne pouvons pas soutenir, nous ne soutiendrons pas une opération militaire d'ampleur à Rafah en l'absence d'un plan efficace visant à garantir que les civils ne soient pas atteints. Et non, nous n'avons pas vu un tel plan. Par ailleurs, il existe d'autres moyens et à notre avis, de meilleurs moyens de relever le défi actuel du Hamas, qui n'implique pas ou ne nécessite pas une opération militaire d'ampleur à Rafah.
Et dans le même temps, Israël a rouvert le passage d'Erez pour acheminer l'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne. La réouverture de ce point de passage est l'une des principales demandes des agences d'aide internationales. Le ministre israélien de la Défense s'est exprimé et il est revenu sur la stratégie militaire de l'armée israélienne.
Nous prenons des mesures significatives afin d'accroître l'aide humanitaire à Gaza. Nous combattons le Hamas, une organisation terroriste brutale. Nous ne combattons pas les civils de Gaza et nous leur accordons toute l'aide humanitaire possible.
Et enfin, juste avant votre journal des sports, on va prendre la direction des États-Unis dans ce journal puisque la tension monte sur le campus de UCLA à Los Angeles. Des affrontements ont éclaté ce mercredi matin sur ce célèbre campus américain. En marge d'un rassemblement pro-palestinien, des manifestants se sont affrontés. Certains se sont battus, notamment avec des feux d'artifice. Et de l'autre côté des États-Unis, la police a également dû intervenir dans les locaux de l'Université Columbia à New York. Le récit de Solène Boulan.
Sur une pelouse entourée de barricades, des étudiants pro-palestiniens ont installé un campement en plein cœur du campus de UCLA à Los Angeles. Pancartes et parapluies à la main, certains arborent le keffieh, le foulard traditionnel palestinien. La situation se tend rapidement à l'arrivée des étudiants pro-israéliens. Ce partisan d'Israël au foulard rouge s'arme d'un bâton et tente d'arracher une barrière aux manifestants pro-palestiniens avant de se faire asperger par un produit. Plusieurs individus traversent la pelouse avec des barricades en acier et tentent d'atteindre le campement palestinien. Des affrontements éclatent entre les deux camps. Des feux d'artifice explosent au sol, un drapeau et des projectiles sont lancés. Une situation que les médias présents sur place qualifient de chaotique, nécessitant l'intervention de la police de la ville de Los Angeles. Des étudiants témoignent.
L'un de mes amis a une énorme bosse derrière la tête, car on l'a battu. Ils sont venus ici pour nous attaquer. Des gens sont venus nous agresser, nous frapper avec des battes et des bâtons. Ils jetaient tout ce qu'ils pouvaient sur nous.
À l'autre extrémité du pays, la police pénètre dans les locaux de l'Université Columbia à New York. À l'aide d'une passerelle qui mène aux fenêtres, les forces de l'ordre s'introduisent à l'intérieur du bâtiment, puis délogent les manifestants pro-palestiniens barricadés à l'intérieur. Depuis mi-avril, des centaines de personnes ont été arrêtées sur une vingtaine de campus à travers les États-Unis.
Allez-vous rester bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans quelques secondes pour votre journal des sports. Et on ouvre ce journal des sports avec la défaite du Paris Saint-Germain 1-0 face à Dortmund en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Les Parisiens n'ont plus le choix et devront impérativement s'imposer par 2 buts d'écart au match retour. Ça sera le 7 mai prochain au Parc des Princes. Le récit de cette rencontre du soir, c'est avec Jérémy Sacal.
Il est aussi fascinant qu'intimidant. Le mur jaune entre en fusion pour les grandes occasions. Ce Borussia est le dernier obstacle du PSG sur la route de Wembley. Les Allemands s'offrent la première frappe cadrée. Donnarumma sort au devant de Sabitzer. Le danger se précise lorsque Sancho s'infiltre pour servir Brandt. Sacrifice du capitaine Marquinhos. Mais à force de vaciller, le PSG est sanctionné.
Appel de Füllkrug, pas signalé en possession de hors-jeu. L'attaquant du Borussia qui a trouvé l'ouverture et qui marque le premier but de la partie dans le dos de la défense parisienne.
Les mauvaises nouvelles s'enchaînent. Lucas Hernandez sort blessé. Donnarumma est encore inquiété. À la mi-temps, Paris est logiquement mené. La causerie de Luis Enrique va-t-elle porter ses fruits? Le PSG revient transfiguré. Le poteau contrarie d'abord Kylian Mbappé. Et dans la continuité, le sort s'acharne sur Achraf Hakimi. Dans la foulée, Füllkrug s'aborde une balle de break. Les champions de France n'en profitent pas car Dembélé, lui aussi, est en échec. Si précieux contre le Barça, l'ex de Dortmund est bien moins inspiré sur ce match aller. Paris n'y arrive pas, mais peut toujours compter sur son capitaine pour limiter les dégâts. Tacle de grande classe de Marquinhos. Battu, le PSG peut malgré tout se permettre de rêver.
Et juste après le coup de sifflet final, le capitaine du Paris Saint-Germain, Marquinhos, s'est exprimé au micro de Canal+. Il paraissait plutôt confiant pour le match retour. Écoutez.
Ce sont deux équipes qui vont vers l'avant, ce sont deux équipes qui aiment bien avoir le ballon. Ce sont deux équipes qui pressent, qui veulent le ballon toujours. Et c'est pour ça que ça a été un test physique, un match beaucoup physique. Par rapport au résultat, c'est vrai, on a eu beaucoup d'occasions, surtout en deuxième mi-temps. Des occasions claires qu'on ne peut pas les rater si on veut aller en finale. À la maison, il faut vraiment les concrétiser, des occasions comme ça. Mais bon, l'équipe, elle était là. C'est toujours très difficile de jouer ici. On le connaît, le contexte. Et nous, on est venu ici pour chercher cette victoire. On n'a pas pu. 1-0. On l'a fait déjà avant. On a montré qu'on peut le faire, surtout à la maison, avec l'énergie de nos supporters. C'est sûr que ça va être un scénario différent.
Et enfin, ce jeudi, un autre club français joue une demi-finale de Coupe d'Europe. L'Olympique de Marseille reçoit les Italiens de l'Atalanta Bergame en Ligue Europa. L'OM n'est pas favori, mais sera porté par un vélodrome en feu. L'entraîneur de Marseille, Jean-Louis Gasset, ainsi que Jonathan Clauss, étaient en conférence de presse à la veille de cette rencontre. On les écoute.
On a le bon état d'esprit, ça, il va falloir le maintenir. Et demain contre une très bonne équipe, contre la meilleure équipe des quatre qu'on ait eu à jouer, il va falloir monter encore un peu plus d'un cran.
Ça va être une grosse bataille, en tout cas d'engagement, je pense, au départ, parce qu'il va falloir imposer notre rythme à nous, vu qu'on sait aussi qu'eux vont vouloir l'imposer aussi. Donc non, ça va être un rapport de force qu'il va falloir gagner vite pour imposer notre patte sur le terrain et permettre au moins de faire un gros résultat à l'aller.
Allez, vous restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans un instant pour un prochain journal. Et nous reviendrons sur ce 1er mai marqué par une forte mobilisation partout en France. 121 000 personnes sont descendues dans la rue, dont 18 000 dans la capitale. Des tensions ont émaillé plusieurs cortèges. Vous le verrez donc dans notre prochain journal. Très belle nuit à toutes et à tous sur CNews. Et je vous retrouve donc dans un instant.
Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.